Chapitre 59. Nous essayons dans notre unité de percer les mystères de l'électricité cérébrale. Nous cherchons par exemple à cartographier quelles sont les régions du cerveau nécessaires à la survenue de processus conscients. C'est, vous vous en doutez, un sujet d'une complexité extrême. Il ne s'agit pas seulement de repérer les circuits nerveux qui nous permettent d'être informés d'une douleur dans la main, mais d'expliquer comment naît l'impression subjective de la douleur. Et là, c'est une autre histoire, et nous sommes loin d'avoir résolu cette énigme. Vous savez ce qu'on dit sur le cerveau. Plus on le connaît, moins on le comprend. Karine Millot les avait amenés à l'étage, dans l'aile ouest du bâtiment. La salle où ils évoluaient ressemblait à ce que Charcot avait toujours imaginé de ce genre d'endroit, un lieu aseptisé et bourré de technologie. Il y a quelques années, Marx s'est engagé dans une problématique très pointue, suivre en temps réel le passage de la vie à la mort des neurones, observer la manière dont s'éteignent progressivement les rythmes cérébraux de la conscience et tenter de définir avec précision ce qu'est la mort irréversible de l'être. Trouver, si vous voulez, une sorte d'indicateur biologique irréfutable du moment exact de la mort. Ils continuèrent à avancer. Sur l'une des tables s'agitait un rat au crâne recouvert de capteurs piégé dans une boîte en verre dont l'une des faces affichait des successions de figures géométriques. Deux types en blouse observaient l'animal, les courbes générées par les machines et prenaient des notes sur des tablettes. Leur hôte poussa une porte. Et ils pénétrèrent dans un petit laboratoire encombré de matériel. Fenêtres donnant sur la forêt, paillasses en faïence, murs couleur jaune poussin. Quatre souris blanches occupaient un vivarium. Voilà, c'est ici que Marc passe ses journées et, la plupart du temps, ses nuits. À son ton, à l'expression de son visage, les flics percevaient la haute estime dans laquelle elle tenait Victor. Un type brillant qui pointait tous les matins, jamais en retard, qui ne comptait pas ses heures et vouait sa vie à la recherche. À proximité de l'évier, Charcot nota la présence d'un étrange instrument posé sur le carrelage blanc. Lucie s'approcha à son tour, écœurée. « C'est une guillotine ? Pour les souris ?» Karine Millot se posta à leur côté. « En effet, mais si ça peut vous rassurer, ça fait un bout de temps qu'elle ne sert plus. » Marc souhaitait, à l'origine, reproduire une expérience néerlandaise, brancher des capteurs sur le crâne des rongeurs et regarder ce qui se produit une fois leur tête tranchée. C'est le moyen le plus rapide et efficace pour étudier avec grande précision un cerveau en train de mourir. Charcot observa le demi-cercle en bois destiné à accueillir le petit cou des rongeurs, la lame biseautée retenue par une corde miniature, le mini-bac pour recevoir la tête. Certes, il était question de science, mais il n'avait jamais été adepte de l'adage prétendant que la fin justifie les moyens. Il pensa également au porc décapité. Vraisemblablement, à un moment donné, Victor avait changé de calibre. La responsable les conduisit jusqu'à un EEG portatif, le même modèle que celui découvert dans la cabane. Dans une armoire, elle piocha une pochette parmi de nombreuses autres et en tira une feuille accordéon qui représentait le même genre de tracé que celui qui était accroché dans le bureau du domicile de Victor, mais en beaucoup moins large. Elle plaça ensuite son index sur le trait noir. « Voilà, ce sera plus clair qu'un long discours. Ici, vous voyez l'activité cérébrale normale de la souris. Là, après la chute de la lame, un effondrement des rythmes de la conscience, sur 4 secondes seulement. » Un délai très court qui valide le fait que la méthode de la guillotine n'est pas cruelle pour les animaux. « On leur coupe juste la tête, ça va ?» ne put s'empêcher de relever Lucie. « C'est un sacrifice nécessaire pour que vous, vos enfants, si vous en avez, puissiez vieillir en bonne santé. Il n'y aurait pas de progrès sans ce type d'expérimentation. » Les deux femmes se jaugèrent un instant. Puis la flic acquiesça avec calme, incitant son interlocutrice à poursuivre. Le doigt reprit sa route le long de la courbe. Donc, 4 secondes plus tard, tracé plat. Le fameux bip lancinant qui, dans l'esprit des gens, est synonyme de faim. Le cerveau n'est plus alimenté en oxygène, il est en train de mourir, mais il n'est pas encore mort. car ici, aux alentours d'une minute dix, quelle que soit la souris, on constate une onde de grande amplitude, avec des fréquences allant de 40 à 80 Hz. Une onde que d'autres chercheurs avant Marc ont réussi à mettre en évidence aux Pays-Bas et qu'ils ont baptisée l'onde de la mort. Lucie s'approcha pour mieux voir. L'onde de la mort. Soudain, elle eut très froid. Elle correspond à une décharge simultanée du potentiel électrique de tous les neurones cérébraux, comme un ultime tsunami d'électricité sous le crâne. Jusqu'à preuve du contraire, la fin de cette onde marquait l'arrêt définitif des activités du cerveau et, ainsi, l'instant précis de la mort chez les souris. Elle replia la feuille, fouina dans un autre dossier. Mais un point gênait Marc. En effet, qu'est-ce qui garantissait que, après cette incroyable décharge, les neurones ne puissent pas récupérer leur potentiel électrique si on apportait de nouveau de l'oxygène? Or, vous imaginez bien que sur des souris décapitées, c'était impossible à expérimenter. Alors, il a eu l'idée de travailler sur des animaux intègres. Il leur injectait du potassium pour stopper le cœur, un mélange de sa composition pour tuer le cerveau, si je puis m'exprimer ainsi. Ensuite, il observait ce qui se passait. Nouvelle feuille en accordéon. Voici un exemple. Vous voyez, tout se déroule comme pour la décapitation. L'effondrement des signaux, le tracé plat au bout de 4 secondes et l'onde de la mort à 1 minute 10. Mais regardez ici. À plus de 2 minutes après la décharge, ce sursaut électrique. Les neurones, qu'on pensait définitivement morts, ont retrouvé leur potentiel électrique suite à une réanimation réussie. Il a suffi d'un apport d'oxygène et d'adrénaline pour que la machine reparte quasi normalement. La responsable pointa du doigt des paquets et des paquets de dossiers. On a là des centaines d'essais, des tentatives de réanimation à 2, 3, 4 minutes. Finalement, Marc est parvenu à déterminer l'instant précis où cette onde ne réapparaît plus, malgré l'apport en oxygène. Un instant situé à environ 4 minutes 40 après l'onde de la mort, sur plus de 200 sujets testés. Toujours ce même délai, à quelques secondes près. Vous imaginez la portée de cette découverte? Charcot se mordit la langue, pour éviter de mentionner le fait que Victor ne s'était pas contenté que de souris, jugeant qu'il était encore trop tôt pour de telles révélations. Marc Victor a identifié le véritable point de non-retour, répondit-il. Le moment où la mort est totale et irréversible. À 4 minutes 48, les souris peuvent revenir à la vie. À 4 minutes 50, c'est trop tard.
Tout à fait.
Et il a baptisé cette onde l'onde Shelley. Shelley, comme Marie Shelley, l'autrice de Frankenstein? Je vois que vous connaissez vos classiques. Elle leur montra la porte intérieure de l'armoire. L'affiche du film Frankenstein y était collée, la version originale de James Whale, sortie en 1931. L'œuvre préférée de Marc, qui puise sans doute dans les tourments de Victor Frankenstein ses propres obsessions sur la mort et l'électricité. Quelques papiers sont parus il y a 3 ans sur sa trouvaille, dont un dans Science, l'un des magazines les plus prestigieux de notre communauté. On était tous très fiers dans l'unité.
Je comprends. Si je ne me trompe pas, Marc Victor était encore employé à mi-temps à la Salpêtrière pendant toute cette période de tests et de découvertes, n'est-ce pas?
En effet. Je ne sais pas comment il tenait le coup à l'époque, mais il a toujours eu des capacités de travail hors normes. Charcot fut saisi d'un vertige, rien qu'à imaginer les essais que Marc Victor avait dû faire dans les chambres de soins intensifs. Après les souris et les porcs, il était passé à la vitesse supérieure avec les êtres humains, qu'il n'avait pas hésité à sacrifier pour ses recherches insensées. Il songea à Nebraza, Dubois, Calvar, à toutes les pauvres créatures du docteur Victor, puis se ressaisit.
Un graphique de ce genre était accroché sur un mur de son bureau chez lui, indiqua-t-il, étalé sur plusieurs mètres. Entre l'onde de la mort et l'onde Shelley, Victor a écrit « Boléro », j'imagine en référence au Boléro de Ravel. Avez-vous la moindre idée de ce que ça signifie?
Contre toute attente, Millot hocha la tête.
Oui, bien sûr.
C'est sans doute en rapport avec une expérience dont il avait eu l'idée, mais qui ne pourra jamais être réalisée, aussi séduisante soit-elle. C'est-à-dire, je vous ai expliqué que l'onde de la mort était la preuve de la décharge du potentiel électrique des neurones. Si on part du principe que la conscience et l'entièreté de notre perception du monde sont contenues dans le cerveau, alors logiquement, après cette décharge, tout s'arrête. Marc, lui, rêve de vérifier cette théorie dans la pratique. Elle laissa planer un silence de quelques secondes avant de poursuivre. La place de la conscience dans l'univers, la notion d'âme, sont des questions qui l'obsèdent, comme elles ont obsédé des générations de chercheurs et de philosophes. Et il reste persuadé que la mort physique n'est pas forcément la mort de la conscience, que les pensées ne peuvent pas être que de l'électricité, que lorsque le cerveau s'éteint, l'âme subsiste quelque part. Sur le papier, elle pointa la zone située entre les deux pics électriques. Imaginez qu'un sujet mort, mais réanimé avant l'onde Schelley, puisse rapporter avoir entendu le boléro de Ravel, pourtant déclenché après la décharge. Ce serait un pas incroyable pour démontrer l'existence d'une conscience en dehors de tout processus chimique ou électrique du cerveau. Là où vous vous en doutez, c'est un fantasme, c'est que ces expérimentations menées sur des souris ne sont évidemment pas reproductibles sur l'humain. Non seulement nous ne pourrons donc jamais prouver que ce qui a été découvert sur les rongeurs est valable pour nous, mais en plus, nos amis à quatre pattes n'étant pas dotés de la parole, jamais ils ne rapporteront ce qu'ils ont perçu entre les deux ondes. D'un regard, Franck et Lucie surent qu'ils pensaient la même chose. Le fantasme avait pris vie, et il s'appelait la faille. Ils avaient enfin compris son but ultime, secret, définir une bonne fois pour toutes si la conscience humaine survivait au corps. Et le fait de diffuser le boléro de Ravel pendant ses expériences devait aider Victor à en établir la preuve. À cet instant, Charcot se rappela les confidences de l'abbé François au sujet de Nebraza. Seule la musique classique l'apaisait, et en particulier le boléro. Est-ce que ça signifiait qu'il l'avait entendu alors que toute électricité avait quitté son cerveau? Le scientifique avait-il obtenu, grâce à Nebraza et aux autres pauvres victimes, la preuve qu'il recherchait? Franck n'arrivait pas à imaginer ce que ces suppositions impliquaient, à se représenter mentalement cette conscience détachée de son support physique au moment de la mort, une sorte de nuage invisible qui flottait là, autour du cadavre. Comme en écho, Lucie tenta de formuler tout haut ce qui le tracassait tout bas. Est-ce que Marc Victor pourrait avoir trouvé le moyen de communiquer avec une conscience qui serait ailleurs? Karine Millot referma l'armoire. Elle laissa une seconde sa main sur la poignée, les sourcils froncés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous avons découvert dans son sous-sol un écran d'ordinateur sur lequel semble s'exprimer en temps réel une personne dont nous avons la quasi-certitude qu'elle est décédée. Les phrases sont étranges, mais il est question d'enfermement, de souffrance. La personne donne l'impression d'être séquestrée quelque part. La responsable avait des yeux comme des soucoupes. Si le contexte avait été moins sérieux, elle aurait éclaté de rire. Ce que vous me décrivez n'est tout bonnement pas possible. Dans un film d'anticipation peut-être, mais certainement pas à notre époque. On est à peine capable de reproduire par ordinateur le fonctionnement des quelques malheureux neurones d'un ver de terre. Alors, le cerveau humain? Et dans le cas d'une conscience extérieure, à supposer que cela existe, comment voulez-vous qu'elle puisse communiquer par l'intermédiaire d'un ordinateur? Un médium à la rigueur, mais une machine. Lucie était d'accord. Tout cela ne rimait à rien. Il était grand temps de retrouver Victor pour qu'il leur livre une explication plus logique. Les deux policiers posèrent encore quelques questions à la scientifique. Victor avait-il des coéquipiers, des étudiants à sa botte? Est-ce qu'il donnait des cours à l'université? La réponse fut non à tout. Dernière chose, fit Charcot. Est-ce qu'il entretenait un lien particulier avec le centre de don des corps de la fac? Est-ce qu'il côtoie des gens là-bas? La sexagénaire fit la moue. Absolument pas. Cet endroit et les individus qui y sont employés sont, comment dire, peu recommandables.
Pourquoi dites-vous ça?
Je ne veux pas de problème avec qui que ce soit, mais il est de notoriété publique que la gestion du CDC est négligée par l'université qui, depuis des décennies, le traîne comme un boulet. C'est un bâtiment vétuste que les différents doyens n'ont jamais essayé de moderniser. Un manque total d'intérêt qui fait que ce qui se passe là-dedans est de plus en plus opaque. Après une pause, durant laquelle elle parut réfléchir à ce qu'elle pouvait se permettre de révéler, elle haussa les épaules et continua. L'inspection du travail ou les affaires sociales sont déjà intervenues là-bas à plusieurs reprises. Des rapports doivent être établis chaque fois sans qu'on sache précisément de quoi ils retournent. Selon les rumeurs qui circulent, il serait question de corps maltraités, de conditions indignes de conservation, de salles surchargées et inadaptées, de préparateurs psychologiquement fragiles. Un jour, lors d'une dissection, des étudiants seraient même tombés sur des dizaines de mégots de cigarettes au fond de la gorge d'un des cadavres en provenance du CDC. Charcot en avait assez entendu. Ce qu'elle décrivait cadrait avec leur propre découverte. Il finit par lui tendre une carte de visite. « Si Victor essaie de vous joindre ou s'il revient, vous ne lui parlez surtout pas de nous et vous nous recontactez en toute discrétion. Cette enquête est très sérieuse, Madame Millot. » La scientifique rangea la carte dans une de ses poches.
« Vous ne voulez toujours pas me dire ce qu'il a fait ?»
demanda-t-elle. « Vous le saurez, bientôt. En attendant, prenez bien soin de ces petites souris, » lança-t-il en pointant les rongeurs du doigt. Dehors, Franck respira un bon coup et leva ses yeux vers la pluie. Avec l'eau qui ruisselait, il avait l'impression de se laver de toutes les horreurs affrontées ces derniers jours. Bon Dieu, jusqu'où irait la folie humaine? Il rejoignit ensuite Lucie, qui s'était réfugiée dans la voiture. Il n'était pas loin de 19h. La nuit était dense, un orage grondait à proximité. La forêt alentour n'était plus qu'une grande gueule d'ogre qui menaçait de les engloutir. Certes, ils ne tenaient pas encore Victor, mais ils connaissaient leur prochaine étape, à même pas 3 kilomètres de là, de l'autre côté de l'université, le centre du don des corps, à condition qu'il fût encore ouvert. Ils se regardèrent en silence, le visage grave. Alors que Franck s'apprêtait à mettre le contact, Lucie finit par desserrer les lèvres, les yeux légèrement embués.
Elle est encore là, Franck. Je l'ai toujours su. Je l'ai senti chaque fois que je suis allé là-bas.
De quoi tu parles ?
Audra. Elle veille sur le bébé.